du Seigneur Jésus lui-même. Et non seulement une parole d'accueil, mais aussi un geste. Et c'est ce que j'ai marqué sur le tableau que nous enseigne l'Écriture au sujet de la résurrection. Ce ne sont pas mes idées que je vais vous donner au sujet de la résurrection. Vous savez qu'il y a tant de doctrines concernant la résurrection et tant de fausses doctrines aussi, tant de théories, par exemple celle d'après laquelle, à la mort, l'âme quitte un corps pour se réincarner dans un autre. Et c'est ça qu'enseigne la Bible. Est-ce que la Bible enseigne la réincarnation, comme beaucoup le croient? Il y a une réincarnation. On meurt et puis on se réincarne dans un autre corps. Est-ce que la Bible enseigne cela? Non, n'est-ce pas? Alors, nous n'allons pas vous parler de la réincarnation. Ceux qui sont peut-être venus ici en pensant que nous parlerions un peu de la réincarnation, ce n'est pas dans la Bible. Alors, nous allons voir seulement ce que dit l'Écriture au sujet de la résurrection. Mais nous savons bien, en Europe et en Amérique, la réincarnation est devenue le thème privilégié de la théosophie, des milieux occultistes et de quel milieu encore? Des spirites. C'est cela qu'ils croient. Mais nous n'y croyons pas, parce que nous ne voulons pas nous laisser influencer non plus par la philosophie hindoue ou bouddhique qui fournit un appui à cette doctrine. Eh bien, nous sommes heureux de saluer nos amis qui arrivent sains et saufs. Le Seigneur a entendu nos prières. Donc, un long voyage depuis Hall, Ottawa, et nous sommes heureux de les accueillir. Une maman et ses deux enfants, que c'est beau. Alors, vous pouvez voir comment le Seigneur nous accueille, puisque nous disions que ce n'est pas nous qui vous accueillons, mais le Seigneur Jésus. Et en cette soirée du 14 juin, quelle est la parole par laquelle Jésus lui-même nous accueille? Parce que on n'est pas accueilli ici par une église particulière ou par un homme. Je suis avec vous, un frère au milieu de mes frères et des sœurs, et puis ensemble, le Seigneur nous accueille dans cette maison providentielle. Et que nous dit-il pour introduire cette retraite? Il nous dit tout de suite que lui est la résurrection et la vie. C'est fantastique. Donc vous allez être mis en contact avec une personne, non pas avec des doctrines concernant la résurrection, mais avec la personne qui est la résurrection. Et alors nous serons unis, parce que sans ça, chacun a ses idées au sujet de la résurrection. Jésus nous dit, je suis la résurrection. Donc, si nous voulons savoir quelque chose au sujet de la résurrection, nous devons être occupés de la personne de Jésus. Nous devons apprendre à le connaître. Et cette parole, vous la trouvez... Et j'ai cité le verset que vous avez là au tableau, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, quand Jésus rencontre Marthe, la sœur de Lazare, et qui est mort en l'absence du Sauveur. Et quand Jésus rencontre Marthe, depuis 4 jours déjà, son frère Lazare est dans le tombeau. Pourtant, elles avaient, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, dès sa maladie, envoyé un message pressant à Jésus en lui disant « Celui que tu aimes est malade ». Elles avaient dû attendre sa venue, mais Jésus n'était pas venu, n'était pas arrivé, de sorte que leur frère Lazare était mort. Puis maintenant, Marthe, qui est dans les pleurs avec Marie, entend dire que Jésus approche du village de Béthanie. Alors, je lis au verset 20 du chapitre 11, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison, parce qu'il y avait bien des personnes qui étaient venues pour apporter leur sympathie à la famille éprouvée. Alors Marthe se lève et s'en va à la rencontre de Jésus. Et que lui dit-elle? Verset 21. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Parce qu'elle est sûre que Jésus serait intervenu, lui qui a fait tant de guérisons pour guérir son frère. Mais elle ajoute, « Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » À quoi pense-t-elle? On sait que Jésus a déjà ressuscité des morts. Hein? Il a ressuscité une jeune fille qui était encore dans sa chambre, qui avait 12 ans. Il a ressuscité un jeune homme qu'on conduisait au cimetière. Mais Marthe pense, eh bien, peut-être que Jésus pourrait encore faire sortir du tombeau Lazare. Mais elle n'exprime pas vraiment ce qu'elle pense. Mais elle dit quand même que même maintenant, puisque s'il avait été là, son frère ne serait pas mort, mais maintenant, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ton frère ressuscitera. Et alors, Marthe, qui connaît les pensées juives au sujet de la résurrection, lui dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et c'était l'idée que l'on avait chez les juifs, qu'à la fin du monde, au dernier jour, eh bien, tous les morts allaient ressusciter. Alors, ce sont des choses que nous allons voir pendant ces journées. Nous allons avoir un peu de clarté. Est-ce qu'il faut attendre au dernier jour pour ressusciter? Est-ce qu'il n'y a qu'une résurrection à la fin, au dernier jour? Non. Et c'est pourquoi je voudrais que, dès ce soir, vous vous attendiez à comprendre ce que dit l'Écriture. Nous allons nous mettre à l'écoute de l'Écriture. Ce ne sont pas mes idées, vous avez vos Bibles, c'est pourquoi nous vous demandons de venir avec une Bible, pour que vous puissiez toujours contrôler tout ce que nous vous disons. Nous ne voulons pas nous prêcher nous-mêmes, ou prêcher nos pensées, nos idées, même si nous avons étudié ce sujet, mais nous voulons voir que dit l'Écriture. Et ce qui compte pour moi, c'est que vous deveniez des gens qui lisent l'Écriture, qui contrôlent dans l'Écriture si ce que vous entendez est exact. Pour que vous ayez non pas les convictions d'un homme que vous pouvez aimer, mais les convictions que le Seigneur vous donne. Alors, le Seigneur répond à Marthe par ses paroles, je suis la résurrection. Donc, il ne parle pas du dernier jour, il dit, je suis la résurrection, je suis maintenant déjà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Hein? Donc, ce n'est pas fini par la mort. Cette mort qui fait tellement peur à des multitudes de personnes, eh bien, ce n'est pas la fin de tout la mort. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Puis, il ajoute, et quiconque vit et croit en moi, alors là, il y a dans la version seconde un manque d'exactitude que j'ai dû souvent vous souligner, et vous pouvez faire la correction. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Littéralement, c'est ne mourra point à jamais. Comprenez-vous? C'est-à-dire ne restera pas toujours dans la mort. Et même des versions catholiques, et il y en a d'excellentes, disent ne mourra pas à toujours. On ne meurt pas à toujours. Donc, il y a un événement qui va se produire au sein de la mort. Et cet événement qui va se produire au sein de la mort, c'est déjà produit pour qui? Pour qui y a-t-il eu un événement au sein de la mort qui a tout changé? Pour Jésus lui-même. Jésus est vraiment la résurrection et la vie. Est-ce qu'il est mort, Jésus? Oui, il est mort. Hein. Et pourquoi est-il mort? À cause de ses péchés à lui? Non. À cause de nos péchés qu'il avait pris à son compte, dans son amour pour nous. Mais ce que vous pouvez mettre, n'est-ce pas, c'est de bien souligner que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne mourront point. Hein. Et nous sommes peut-être dans cette catégorie-là. Est-ce que ça vous intéresserait de ne pas mourir? Oui. D'aller au ciel sans mourir? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui. Eh oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il y a eu déjà des exemples d'hommes qui sont au ciel sans avoir passé par la mort? Oui, déjà dans la Genèse, nous avons le premier. C'est Enoch, n'est-ce pas? Et qui est un homme qui est entré dans le ciel sans passer par la mort. Pourquoi? Parce que sur la terre, il marchait avec Dieu. Et il a dit, et Dieu le prit. C'est quelque chose de fantastique. Et Dieu le prit. Et il n'a pas passé par la mort. Tandis que tous les autres, il a dit, et il mourut, et il mourut, et il mourut, même s'ils ont vécu 900 ans. Hein, et il mourut. Tandis qu'Enoch marcha avec Dieu, et puis Dieu le prit. Puis l'autre homme qui n'a pas passé par la mort, et qui avait pourtant demandé la mort dans un moment de découragement. C'était qui? Élie, n'est-ce pas? Il était couché sous un genêt, puis il avait dit, je suis pas meilleur que mes pères, Seigneur, prends mon âme, etc. Puis le Seigneur l'a pas pris. Et il l'a fait transporter dans le ciel, dans un chariot de feu. C'est fantastique, hein? Bien oui. Alors, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est possible qu'on ne meure pas. Mais, en tout cas, littéralement, c'est ne mourra point à jamais. Même si vous mourrez, c'est pas pour toujours. Il y a la résurrection. Mais, pour bien comprendre ce qu'est la résurrection, nous allons contempler pendant ces journées la personne de Jésus. Ce qui compte pour moi, c'est qu'à la fin de cette retraite, vous connaissiez mieux votre Seigneur et que découvrant en lui toutes les richesses de Dieu, vous puissiez aller avec une force nouvelle au travers des difficultés présentes, en sachant qu'en Jésus, si vous allez à lui, vous avez, comme nous l'avons prêché mercredi dernier dans une communauté de Montréal, nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que vous croyez? Il y a absolument tout dans la personne de Jésus. Et si nous avions cette foi de croire cela, qu'il y a tout en Christ, notre vie serait absolument transformée. Et quotidiennement transformée, si nous n'avons pas simplement eu la foi il y a X années, quand on dit « j'ai été sauvé il y a X années hein, », mais quand on a la foi quotidienne, je crois aujourd'hui en la personne de Jésus en qui je trouve tout pleinement. On va directement à lui. Tandis que la plupart du temps, les chrétiens, ils essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Hein. Ils ont comme verset un verset qui n'est pas du tout biblique. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faut d'abord faire tous vos efforts pour vous en sortir. Puis quand vous arrivez à rien, alors vous allez vers le Seigneur. Pauvre Seigneur. Bouche-trou. Alors, voilà, le Seigneur bouche-trou. Est-ce que il y a des disciples du Seigneur bouche-trou? Non, nous voulons connaître toutes les richesses qu'il y a en Christ et aller directement à lui. Votre vie serait illuminée et transformée. Mais comment? Eh bien, en ayant la foi quotidienne. Le juste, il est sauvé par la foi, mais il est dit qu'il doit vivre de foi. Et vous trouvez ce texte qui est dans l'Ancien Testament, dans l'un des petits prophètes, vous le trouvez trois fois répété dans le Nouveau Testament. Le juste vivra de foi. On est sauvé par la foi et pour la foi. Et la foi, comment grandit-elle? Il est dit, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Alors, il faut entendre la parole de Dieu, et l'ayant entendue, on la reçoit, on la croit, et alors, elle devient vivante, et elle se réalise. Et qu'est-ce qu'on a alors dans notre vie? Des actions de grâce. Un chrétien, c'est un homme qui est plein d'actions de grâce, qui remercie Dieu pour ses délivrances actuelles, pas seulement parce qu'il a été sauvé, mais parce qu'il est sauvé aujourd'hui dans les circonstances présentes. Alors, donc, qui est-ce qui est la résurrection selon ce passage que nous lisons dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, eh bien, c'est Jésus lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que nous croyons cela? C'est la parole que Jésus nous donne pour nous accueillir ce soir. Il est la résurrection. Voulez-vous croire cela? Mais maintenant, j'ai dit que le Seigneur allait faire un geste. Et je voudrais que vous vous laissiez vraiment toucher par le geste de Jésus. Et ce geste de Jésus, je l'ai reçu en lisant Apocalypse, chapitre 1er. Vous savez que Jean, l'apôtre, était relégué dans une île à Patmos, dans la mer Égée, et un dimanche, un certain dimanche, premier jour de la semaine, il a eu une vision. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Mais le Seigneur, où était-il? Jean l'avait connu sur la terre. Il avait été son disciple depuis le baptême de Jean. Il avait vu Jésus baptisé. Il avait vu Jésus entrant dans les eaux du baptême. Il était avec André, un de ses amis, le frère de Pierre. Et ils étaient disciples de Jean, puis un jour ils ont vu Jésus. Et ils ont entendu Jean dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme Jean l'a dit à deux reprises, eh bien, et qu'il a ajouté que c'était lui qui baptisait du Saint-Esprit, que lui, Jean, le baptiste, ne baptisait qu'avec de l'eau, tandis que Jésus baptisait du Saint-Esprit. Alors il l'avait suivi. Et Jean était donc devenu disciple de Jésus. Avec qui? Avec Jacques, qui était son frère. Et puis, ils étaient très liés avec qui encore? Pierre, c'est pour ça que vous trouvez dans les évangiles presque toujours Pierre, Jacques et Jean. Et ces trois disciples, Jésus les aimait les prendre, il faisait leur éducation puisqu'ils avaient voulu le suivre, et il aimait les prendre avec lui. Il les avait pris avec lui où? Dans la maison de Jaïrus, qui venait de perdre sa fille. Et là, Pierre, Jacques et Jean avaient vu Jésus prendre la main de cette petite et lui dire, Tabitha, Koumi, jeune fille, lève-toi. Et qu'est-ce qui s'était passé? Alors qu'il y avait toutes les pleureuses qui faisaient grand bruit là autour, parce que Jésus avait dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et elle était bien morte. Alors, Jésus avait ressuscité cette fille. Il savait, ce Jean, que Jésus pouvait ressusciter les morts. Ils avaient vu aussi le fils de la veuve de la ville de Naïm, qu'on menait au cimetière. Ils se souvenaient que Jésus s'était arrêté devant le cortège funèbre et qu'en voyant cette pauvre veuve qui venait de perdre son fils pleurer, Jésus lui avait dit, ne pleure pas. Et puis, il avait ressuscité son fils. Ils avaient vu cela. Ce jeune homme se lever de son cercueil et Jésus l'avait rendu à sa mère. Puis ils avaient vu autre chose encore. Jean était là avec les autres disciples. Après la mort de Lazare, ils avaient suivi Jésus jusqu'au tombeau. Et là, ils avaient vu Jésus lever les yeux vers le ciel et dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Lazare, sors dehors. Et Marthe pourtant avait dit, mais Seigneur, il sent déjà, c'est une cuisinière, elle avait bon nez, hein. Il sent déjà. Seigneur, il sent déjà, elle est réaliste. Et Jésus lui avait répondu, cette parole merveilleuse, ne t'ai-je pas dit que si tu sens, non, si tu crois, hein, c'est ça qu'il faut. Vous voulez toujours sentir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est merveilleux. Est-ce que le mort avait entendu? Oui, il avait entendu. Et le mort sortit, et même il était lié. Comment est-ce qu'il a pu marcher avec des liens? Puis il avait même un suaire sur le visage. Le mort sortit. Donc Jean avait vu le Seigneur dans cette puissance, mais plus encore, après la mort de Jésus sur la croix, cette mort qui avait pu le bouleverser avec ses disciples, et Pierre en particulier, on avait mis Jésus au tombeau, et 3 jours plus tard, ce Jésus cloué le vendredi, il était de nouveau vivant. Le premier jour de la semaine. Mais il y avait encore une autre chose qui pouvait rester à Jean pour reconnaître vraiment Jésus. Un jour, Jésus avait dit à ses 3 disciples de l'accompagner sur la montagne, sur une montagne. Et ils avaient fait une course de montagne. Et quand ils arrivèrent au sommet, tout à coup, ils étaient donc 3 avec Jésus, Pierre, Jacques, Jean, et ils se trouvent sur la montagne avec Jésus. Et tout à coup, ce Jésus, qu'ils connaissent, souvent fatigué, parce qu'il était un homme comme nous, pas que sans péché, mais qui était soumis à toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire la fatigue et un certain épuisement humain, Quand il était fatigué, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il dormait, hein? Même dans la tempête, mais il dormait. Il ne se forçait pas. Ou alors il s'asseyait sur le bord d'un puits, hein? Puis il attendait. Mais voilà que tout à coup, ses trois disciples voient Jésus transfiguré. Et comment son visage était-il quand il était sur la montagne? Ce Jésus qu'il connaissait si souvent las et fatigué, abattu plus que celui d'aucun homme, il était resplendissant comme quoi? Comme le soleil. Vous avez ces textes dans les évangiles. Ils ont vu, à ce moment-là, ces trois disciples, Jésus resplendissant, ayant un visage resplendissant comme le soleil. Et avec qui parlait-il? Avec Moïse. Moïse était mort, hein? Mais pourtant, il était là. Donc les morts sont encore vivants, dans un sens. Hein? C'est quand même fantastique. Moïse est le représentant de tous les morts. Mais il était là, dans la gloire. Et puis l'autre qui était avec Moïse, c'était qui? C'était Élie, un homme qui était dans la gloire sans avoir passé par la mort. C'est quand même fantastique de penser à cela. Il y a là deux exemples qui vous montrent qu'on peut aller au ciel, peut-être sans passer par la mort. Et que si on passe par la mort, on sera ressuscité, encore vivant pour voir le Seigneur. De sorte que la mort ne nous fait plus peur. Si je dois mourir, je m'endormirai dans le Seigneur, comme on le verra, mais ce n'est pas un sommeil inconscient, comme nous aurons l'occasion de le prouver par l'Écriture, tandis qu'il y a des gens qui viennent nous dire que quand on meurt, on est dans le sommeil et qu'on n'a conscience de rien. Bon, alors ça vaut pas la peine de mourir. Si on a conscience de rien, vous croyez que quand Jésus a répondu au brigand sur la croix, en vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, sans conscience de rien? C'est ce que le Seigneur lui a dit? Tu seras un inconscient à mes côtés? Non. Non, mais voilà, mais il faut que vous y croyiez à cette parole. J'entends encore ici un monseigneur qui était venu me trouver. Il y avait beaucoup de monde ici, mais tous des personnes de l'église romaine, et qui venait me dire, Racine, levez-vous chaque fois que vous entendez une bêtise. Et c'était tous des docteurs, des professeurs et tout. Et apportez la parole. Ben, vous savez, hein, ça vous fait chaud au cœur, ça. Quand vous recevez un encouragement d'un homme qui était un monseigneur de la ville de Trois-Rivières, qui m'avait entendu une ou deux fois prendre la parole. Pour quelle raison? Ben, parce que justement ces professeurs disaient, ben, est-ce que vous avez des questions? On a des questions quand on nous dit des erreurs, hein? On a des questions, mais alors il faut toujours se laisser enseigner par le Seigneur. Il ne faut pas commencer en disant tout ce que vous avez dit est faux. Mais dire, essayez de trouver quelque chose qui était juste dans ce qu'ils ont dit. Puis alors vous commencez par ce qui est juste. Je vous remercie d'avoir dit cela, hein, parce que là, l'Écriture le dit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous niez là. Alors, répondez-nous sur la question. Eh bien, j'ai été encouragé par cet homme qui me disait, levez-vous chaque fois que vous entendez quelque chose qui n'est pas biblique, et dites-le, carrément. Eh bien oui, c'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Alors ce soir, nous n'allons pas vous apporter nos pensées sur la résurrection. Mais vous dire tout ce que nous pouvons trouver dans la Bible, sans effort, on prendra depuis la Genèse, vous savez, hein. C'est une immersion biblique, vous le savez bien ce qu'on fait ici. Nous allons vers une immersion biblique au sujet de la résurrection. Et nous allons commencer dans la Genèse. Vous me direz, mais dans la Genèse, il n'est pas parlé de résurrection. Qu'est-ce que vous en savez? Justement, il a parlé de ça. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée qu'il pouvait y avoir une résurrection. Dans la Genèse. C'était qui? C'était Abraham. Nous allons voir pourquoi. Et une parole de foi, n'est-ce pas? Il allait pour sacrifier son fils. Et il a marché avec ses serviteurs. Puis à un moment donné, il leur dit, ben, restez ici, puis moi et mon fils, nous irons jusque sur la montagne. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je reviendrai tout seul. Nous reviendrons. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans ce voyage? Dans ce voyage terrifiant, où il savait qu'il allait pour offrir son fils en sacrifice, qu'est-ce qui s'était passé dans son cœur? Il avait eu l'idée que Dieu ne pouvant pas lui mentir, puisqu'il lui avait dit qu'il aurait un fils, qu'il aurait, qui serait le père de tout un peuple, eh bien, il a pensé que si cela arrive, même que je dois sacrifier mon fils, je le recevrai par une sorte de résurrection. C'est fantastique. Vous voyez déjà un petit peu ce que nous allons voir. Et je voudrais que vous ayez des convictions bibliques depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux dernières. Nous sommes en ce moment dans les dernières pages. Je m'excuse pour nos amis qui arrivent un peu. Ah, mais nous avons commencé. Mais vous avez sur le tableau, c'est pour ça que peut-être vous trouvez que je suis un peu simpliste d'écrire toujours ça, quelque chose, mais pour ceux qui arrivent en retard, vous avez déjà une idée. C'est le Seigneur qui nous accueille. Nous allons étudier ce qu'est la résurrection, mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit comme accueil? Je suis la résurrection. Et la vie, c'est quand même fantastique. Hein. La résurrection, c'est pas une doctrine, c'est pas des doctrines, chacun ayant la sienne. La résurrection, c'est quelqu'un. C'est la personne du Seigneur. Et si nous sommes tous d'accord que nous allons trouver en lui, puisque nous avons tout pleinement en lui, nous allons trouver en lui tout ce qui concerne la résurrection, nous aurons une même pensée quand nous quitterons ce lieu. Ça ne m'intéresse pas que vous ayez mes pensées, mais ce qui m'intéresse parce que je vous aime, c'est que jusqu'au bout de votre carrière, vous ayez la parole de Dieu. Parce qu'un jour, peut-être, vous serez tout seul face à la mort, hein, si vous devez mourir. Parce que on sait bien qu'un jour, on doit mourir. Mais il est possible qu'on ne meure pas aussi, nous l'avons déjà vu. Hein. Il est possible qu'on puisse entrer dans le ciel sans mourir. Et nous avons des exemples, puisqu'on a cité l'exemple d'Enoch est l'exemple d'Élie, des hommes qui sont entrés dans la gloire sans mourir. Alors, nous disions que sur la montagne, donc, Jésus est apparu tout à coup, glorifié. Et Pierre, Jacques et Jean, revenant de leur sommeil, de leur accablement qu'ils ont eu devant cette gloire, eh bien, ils entendent tout à coup une voix qui dit, sous une nuée glorieuse, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. » Eh bien, j'espère que, dès ce soir, vous serez non pas à l'écoute d'un homme qui a ses faiblesses, ses incapacités, mais que vous serez à l'écoute de la parole de Dieu, que je veux simplement essayer de vous transmettre en pureté, sans rien ajouter et sans rien en retrancher, pour que vous puissiez repartir avec la plénitude de la parole de Dieu dans votre cœur, ne vous laissant pas démolir par toute espèce de doctrine. Alors, l'accueil de Jésus. Je retourne maintenant à l'Apocalypse, parce que j'ai dit que nous devions nous laisser toucher par le geste de Jésus. Ce soir, Jésus nous a accueillis par une parole, je suis la résurrection et la vie, mais aussi par un geste. Moi, je ne sais pas quels ont été vos sentiments en venant à cette retraite. Nous sommes un peu moins nombreux que d'habitude, Je ne sais pas pourquoi, peut-être que on avait peur de ce qu'on entendrait, ou on ne voulait pas entendre, on était peut-être dans la crainte. Eh bien, Jean, qui était relégué à Patmos, dans l'Apocalypse, qui n'avait pas revu le Seigneur depuis sa résurrection, il l'avait vu ressusciter. Pendant combien de jours est-ce qu'il avait pu voir Jésus? Une quarantaine de jours, hein. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont vu chaque jour, hein, mais à plusieurs reprises, pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples. Il leur a donné toutes les preuves qu'il était réellement ressuscité. Et c'est pourquoi c'est en Jésus que nous allons voir ce que c'est qu'un corps de résurrection. Parce qu'en dehors de cela, nous ne savons rien. Mais en Jésus, nous pouvons voir et apprendre ce que c'est qu'une résurrection, ce que c'est quelqu'un qui est revenu de la mort. Et qui ne peut plus mourir, parce que quand on est ressuscité, on ne meurt plus. On ne meurt plus. C'est ce que nous allons voir aussi. Et c'est ça qui est merveilleux. Eh bien, Jean n'a pas revu le Seigneur depuis des années. Il est âgé, il a près d'une centaine d'années, presque 100 ans. Et puis il est seul là à Patmos. Pourquoi ? Parce que on le persécute, on l'a relégué là, pour qu'il n'ait plus d'influence comme il en avait une à Éphèse, où Paul avait beaucoup travaillé, où lui, Jean, était venu après Paul pour enseigner l'église d'Éphèse, puis on avait envoyé Jean à Patmos, dans cette île déserte. Puis voilà que un certain dimanche, premier jour de la semaine, il entend une voix. Et cette voix, ben évidemment, il la connaît. Mes brebis connaissent ma voix. Il a reconnu cette voix et il est bouleversé. Il entend quelqu'un. Il est parlé dans le chapitre premier de l'Apocalypse. Il a entendu quelqu'un. Mais qui c'est ce quelqu'un? Eh bien, tout à coup, ce quelqu'un, il l'a vu. Il l'a vu. Et c'est là que j'en arrive au verset 17 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Mais lisons déjà depuis le verset 16. Donc il a vu le Seigneur. Mais il l'a vu dans toute sa gloire. Dans cette gloire dont il avait eu un échantillon où? Sur la sainte montagne. Sur la sainte montagne, Jésus leur avait donné un échantillon de ce que serait la gloire de son royaume, quand il régnerait sur la terre tout entière. Il avait eu un échantillon. Et alors, à ce moment-là, comment était-il le visage du Seigneur? Brillant comme le soleil. Pas un visage fatigué et défait, plus que celui d'aucun homme, comme vous lisez dans le Ésaïe 53, il avait vu un visage transfiguré, comme le soleil. Alors, verset 16, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à du tranchant, et son visage, vous voyez comme c'est beau la parole, hein, quand on la lit dans son ensemble, son visage était comment? Comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc c'est pas un pauvre soleil couchant, hein. C'est un soleil en plénitude, comme le soleil quand il sort dans sa force. Que c'est merveilleux. Alors, j'en sais qui est ce visage, hein. Il l'a reconnu. C'est le visage du Christ glorifié. Donc le Christ est toujours dans le ciel glorifié. Et maintenant, il le voit dans son île alors qu'il est tout seul. Fatigué, il le voit glorifié. Alors, quand je le vis, quand on voit le Seigneur, est-ce qu'on tombe en arrière pour se casser la nuque? Est-ce qu'on doit avoir des catcheurs derrière soi pour nous empêcher de nous faire du mal, comme ça se fait à Toronto ou ailleurs? Mes amis, quand on est dans la présence du Christ, qu'est-ce qui nous arrive? Vraiment, dans la présence du Christ, on tombe de quel côté?
En avant.
En avant, sur sa face. Vous comprenez alors? Ça c'est clair, hein? Et puis vous ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent qu'ils sont tombés en arrière puis qu'ils ne se sont pas fait de mal. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, hein? Parce qu'il cassait le dos à tous ceux qui tombent en arrière, eh bien, ce serait terrible. Mais Dieu fait lever sa... son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants aussi, hein. Et c'est toujours une grâce. Alors, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est tellement grand la gloire du Seigneur que Jean est encore un humain, c'est un vieillard. Quand il voit le Seigneur, il se prosterne, mais il tombe à ses pieds comme mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le geste du Seigneur. Et au début de cette retraite, je voudrais que vous connaissiez le geste du Seigneur. Quel a été son geste? Quand Jean était par terre, il mit sa main droite. Et qu'est-ce que c'était cette main? Jean la connaissait, cette main, il l'avait vue. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quand elle touchait un lépreux, elle était guérie. Mais il était purifié, la main bénie du Seigneur. Eh bien, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ici, mais si vous avez eu une crainte quelconque, eh bien, laissez la main du Seigneur se poser sur vous, quel que soit votre état. Si vous êtes même comme un mort, hein, vous êtes peut-être venu ici en disant, mais au fond, spirituellement, je suis presque un mort. Ah oui, mais je tombais là comme mort. Si vous êtes arrivé ici comme un mort, laissez la main du Seigneur se poser sur vous. C'est beau, hein? Eh bien, voilà l'accueil de cette fin de semaine biblique. La main du Seigneur, laissez-la. C'est le geste du Seigneur ce soir. C'est de se poser sur vous, même si vous vous sentez, comme vous vous sentez pas du tout, hein. Quand on est mort, laissez le Seigneur vous toucher. Sa main est puissante et vous connaîtrez les rayons de sa force. Il est dit, des rayons, ça c'est encore biblique, hein, des rayons jaillissaient de sa main et là se cachait sa force. Est-ce que vous connaissez la force du Seigneur? Il faut laisser le Seigneur poser sa main sur nous. Mais on a peur de sa main. Est-ce qu'il va nous exterminer? Quand il met sa main sur nous, pas du tout. Il va nous régénérer. Il va nous donner toute sa puissance. Laissez la main du Seigneur. Il posa sa main. Cette main guérissante, cette main bénissante, cette main qui les avait tant de fois consolés, il posa sa main droite sur moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point. Donc voilà la parole d'accueil du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, puis il vient nous dire, ne crains point. Vous êtes venu peut-être avec une crainte, en pensant, et puis maintenant vous réalisez, je suis vraiment spirituellement mort. Non, laisse la main sur toi. Je suis le premier et le dernier. Et quoi? Et le vivant. Lui, il est le vivant. C'est formidable. Pour commencer une étude sur la résurrection, on va être avec le vivant. C'est quelque chose, hein? Le vivant. J'étais mort. Parce qu'il y en a qui nous disent, mais personne n'y a été pour pouvoir nous dire. Mais oui, lui y a été. Il a été mort. J'étais mort, lui a passé par la mort. Alors il peut nous dire quelque chose au sujet de la résurrection. J'étais mort. Et nous allons voir ce qui se passe quand on est mort, oui. J'étais mort. Et voici, je suis vivant quand? Au début de la chrétienté? Non. Je suis vivant au siècle, des siècles, en cette fin du 20e siècle. Je suis vivant, vivant pour vous dans ce siècle, malgré toutes les difficultés que vous connaissez, que nous connaissons. Et puis, au sujet de la mort, je tiens les clés. Oh, c'est fini, la crainte de la mort. Hein. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand il va tous les sortir. Mais comment, quand? Voilà ce que nous aurons l'occasion de voir. Eh bien voilà ce que je voulais que vous ayez tout de suite dans cette première soirée du 14 juin, la parole, l'accueil du Seigneur, et non seulement son accueil, mais aussi son geste. Le geste du Seigneur pour vous, c'est un geste de grâce. Il étend sa main sur vous. Ce soir, laissez-vous toucher. Alors vous dormirez en paix. Je veux croire que vous avez tous reçu le petit feuillet jaune. Ceux qui sont arrivés en retard peuvent l'avoir. Alors, nous, vous me direz que je ne tiens pas mon horaire, mais enfin, on a commencé un peu plus tard parce que nous voulions que vous sentiez vraiment accueillis par le Seigneur. Alors maintenant, je donne la parole à la version 1910. Il y a encore cette erreur qui est un manque de précision. Il est bien question d'une résurrection des morts, mais littéralement, il faut parler d'une résurrection d'entre les morts. Quelqu'un sort de la mort. Les morts, ils restent, mais quelqu'un est sorti de la mort, et c'est Jésus. Alors, nous allons maintenant, peut-être que vous avez lu quand même le programme. Vendredi soir, nous posions cette question: quelle est la plus merveilleuse définition que Jésus a donnée à la résurrection? Et je pense que vous avez tous compris que c'est la déclaration par laquelle il nous a accueillis hier soir en nous disant: je suis la résurrection et la vie. Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, comme vous l'avez au tableau, Jésus s'est présenté à Marthe, qui était en deuil de son frère, en disant: je suis la résurrection et la vie. C'est certainement la plus belle définition que nous avons de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Et la deuxième question que nous allons aborder aussi, mais que j'ai déjà posée comme préparation: qu'est-ce que Jésus lui-même nous apprend par sa propre résurrection? Au lieu de nous demander comment est-ce que c'est, comment est-on quand on est ressuscité, il suffit de contempler Jésus et de l'entendre ressuscité pour savoir ce que c'est qu'une résurrection. La résurrection, on la voit dans le Christ. Il a un corps qui est reconnu comme étant celui qui a été réellement crucifié. Il a les marques dans les mains, dans les pieds. Il n'est pas qu'un esprit. Il dit qu'il a de la chair et des os. Et puis, il nous manifeste qu'il peut manger. Ce n'est pas une nécessité pour le ressusciter, mais pour prouver qu'il est bien le même qui a été crucifié, il a demandé à manger. Donc, c'est en ayant toujours dans cette retraite la personne du Seigneur devant les yeux que nous pourrons comprendre quelque chose de précis au sujet de la résurrection. Et alors, ce matin, je voudrais relire avec vous quelques versets qui placent le texte que j'ai mis et qui préoccupait les disciples dans le chapitre 8 de Marc, au verset 27e. Il est dit que Jésus s'en alla, Marc 8, verset 27, avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Et ils dirent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes, mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait, parce qu'il ne veut pas qu'on se fasse des illusions sur lui. Si on parle de Jésus trop facilement, on risque de buter les personnes que l'on voudrait amener à la connaissance du Seigneur. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Si on dit tout de suite qu'il est le Christ, eh bien, ils se feront des illusions parce qu'ils avaient l'idée que le Christ devait demeurer éternellement. Et il risquerait de rejeter le Christ. Voilà pourquoi Jésus leur demande de ne pas parler de ce qu'ils croient tout de suite. Il faut qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches parce que ça ne correspondait pas du tout aux idées que Pierre avait sur le Christ. Il confesse que Jésus est le Christ, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan !» Et pourtant, il venait de confesser que Jésus était le Christ. « Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes, et je voudrais que ce matin nous comprenions bien que ce que nous voulons savoir, eh bien, ce sont les pensées de Dieu et non pas celles des hommes, parce que beaucoup d'hommes vous parlent de la résurrection, mais sans connaître réellement ce que c'est. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et alors, ce qu'il leur a dit se réalise. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et dans un autre évangile, il est dit que son visage, le visage de Jésus, est devenu resplendissant comme le soleil. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Donc il y a des hommes dans la gloire. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuit sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Donc, ce que nous demandons à Dieu, c'est que pendant ces journées, vous ne puissiez plus voir, et moi avec vous, que Jésus seul avec nous. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, comme il demandait de ne pas dire exactement ce qu'ils croyaient, ou de le dire légèrement, vu ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité, et je ne sais pas ce que vous avez dans votre version, des morts. Non, ce n'est pas seulement des morts, c'est ressuscité d'entre les morts. Et c'est une expression qui va nous occuper à plusieurs reprises dans cette retraite, et je voudrais que vous puissiez mettre la correction. Et il retint cette parole, verset 10, tout en discutant entre eux, qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Parce que hier, nous avons vu que Marthe avait des idées au sujet de la résurrection, les idées que l'on connaissait par une certaine interprétation des Écritures, mais c'était la résurrection au dernier jour, une résurrection générale au dernier jour, n'est-ce pas? Et là, ils sont frappés parce que Jésus parle d'une résurrection d'entre les morts. C'est une expression qui est nouvelle pour eux. Et alors, ils se posaient cette question. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux qu'est-ce que la résurrection d'entre les morts. Eh bien, je m'arrête là pour ce matin en demandant à Dieu que vous soyez préoccupés justement au sujet de cette question. Qu'est-ce que c'est que la résurrection d'entre les morts? Dans la première rencontre que nous aurons ce matin, nous allons voir ce que l'Ancien Testament donnait comme explication au sujet de la résurrection. Nous verrons ensemble si on peut trouver déjà dans l'Ancien Testament des allusions à la résurrection. Et puis, peu à peu, tout va se placer. Mais je souligne aujourd'hui cette résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens que tout son désir c'était de connaître le Seigneur et la puissance de sa résurrection pour pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances, afin de parvenir, s'il le pouvait, à la résurrection. Et là aussi, c'est la résurrection d'entre les morts. Donc, une résurrection tout à fait spéciale, une résurrection à part. Il y a des morts qui restent dans la mort, mais il y en a qui sortent de la mort. Et la vraie espérance du croyant, ce n'est pas de mourir, mais c'est de ressusciter. Si on doit mourir, nous ressuscitons d'entre les morts. Quand? À la fin du monde? Non. Bien avant. Quand? Au retour
du Seigneur Jésus. Nous prions. Notre Dieu, nous savons que nous avons besoin de ton esprit pour comprendre ta parole. Et nous croyons que tu veux nous le donner et que les uns et les autres, nous pourrons quitter ce lieu en ayant plus de clarté au sujet de ces vérités profondes. Merci de ce que tu as dit, que Dieu a caché ses choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il les a révélées aux petits-enfants. Donne-nous d'avoir un cœur d'enfant ce matin pour comprendre tes paroles pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous vous donnons rendez-vous à 9h16.